Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Vous m'entendez bien? C'est lui pour me pencher encore. Là, ça va? Ça va? Ok. Donc, je m'appelle Jean-Maurice. C'est ma deuxième fois à Mulhouse, mais pas dans cette salle. Et mon épouse est là, Timéa, on est venus ensemble. Et la première fois aussi, j'étais avec elle. Et heureusement. Alors, on est content d'être là encore. Après la dernière fois, je ne pensais pas que vous alliez accepter de nous accueillir, mais apparemment, ça marche et on est content de revenir. Merci beaucoup pour votre gentillesse, pour votre accueil. Et donc, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est qui juis. Qui suis-je, pardon, qui suis-je? Une question qui a été posée par quelqu'un. Alors, aujourd'hui, on voit que beaucoup de choses commencent par des questions. Des profs qui font des cours, avant d'aborder un thème spécifique, ils commencent à poser des questions. En philosophie, en biologie ou dans d'autres matières, physique, chimie et consorts. Et je plaisantais. Quand je suis arrivé en France au début, il y a des gens qui me posent beaucoup de questions. Et puis je dis, mais pourquoi vous me posez des questions? Et ils disent, bah pour rien. Et moi je me dis, j'ai tellement pris le temps de vous répondre. Et puis vous me dites qu'en fin de compte, vous avez posé toutes ces questions pour rien. Et aujourd'hui, il y a le thème que nous allons aborder. Il y a Jésus qui va poser cette question à deux publics différents. La même question à deux publics différents. On connaît cette histoire-là dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. C'est affiché. Donc, on a un plan très simple. Qui dit-on que je suis? On ne va pas réinventer la roue. Et la deuxième question, et vous, qui dites-vous que je suis? Les autres, qui dit-il que moi je suis? Et puis, vous, que dites-vous que moi je suis? Qui dites-vous que moi je suis? On va lire le texte. N'est pas long. Alors, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je pour dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors, la question qu'on se pose par rapport à la réponse de Simon-Pierre. Mais Simon, où étais-tu? Ou on pouvait poser la même question aux autres disciples. Mais où étiez-vous pour entendre toutes les différentes réponses? On dirait qu'ils étaient attentifs quand même à ce que les gens disaient par rapport à leur maître. Ils ne se contentaient pas seulement de suivre, mais il y avait quand même cet esprit attentif de se dire, mais qu'est-ce que les gens disent de notre maître? Est-ce qu'ils disent que voilà, on suit une fausse route ou ils pensent qu'on est sur la bonne voie? Parce que ça permet quand même de se rassurer, d'entendre parfois les parents des enfants dont vous êtes le prof dire que ah oui, le prof de mon enfant, il est très bien. Mon enfant rapporte qu'ils font de bons cours, il explique bien. Et si les enfants ne comprennent pas, il prend soin d'expliquer à nouveau. Ça fait plaisir à entendre, n'est-ce pas? Et eux, apparemment, ils étaient attentifs aussi. Et donc, Jésus va leur demander, à poser cette fameuse question, qui dit-on que je suis moi? Qui dit-on que je suis? Et la première réponse va être, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Apparemment, certains pensent que Jésus était Jean-Baptiste. Mais pourquoi pas? Et il y a une rumeur qui circulait parce que lorsque Hérode a appris que Jésus faisait beaucoup de miracles, beaucoup plein de choses. Hérode lui-même, dans Matthieu chapitre 14, verset 2, il disait que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Jean-Baptiste que j'ai fait tuer, sûrement c'est lui qui est ressuscité et qui fait ses miracles. Eh bien, on ne pensait pas que Hérode était très intéressé par la religion. Lui, il était plutôt du côté politique. Mais là, il vient de confesser que quand même, il croit à la résurrection. Bravo, Hérode. Et donc, il dit que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Sûrement, c'est lui qui fait ces choses-là. Et pour info historique, Hérode dont il est question ici, c'est Hérode Antipas, le demi-frère d'Hérode Philippe. Car à la mort de leur père, Hérode le Grand, le territoire était réparti entre ses fils. Bon, là, on a Hérode qui était Antipas qui était en Galilée, et Hérode Philippe à Césarée, dont on parle ici de Césarée de Philippe, c'est le demi-frère d'Hérode Antipas. Et donc, les premiers disent que, en fait, Jésus était... Bon, c'est une supposition de la part de Hérode qui pense que c'est Jésus qui est... C'est Jésus qui est ce Jean-Baptiste-là qui l'a fait décapiter. Excusez-moi. Et les autres disent Élie. Mais pourquoi? Pourquoi pouvons-nous imaginer que Jésus était Élie? Dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5, il y a cette prophétie de la venue d'Élie que Dieu enverrait pour faire revenir les cœurs des Juifs vers leur Dieu. Littéralement, conduit le peuple à la repentance. Et donc, c'est pour cela que quand Jean a commencé son ministère dans Jean chapitre 1, verset 21, des gens étaient envoyés de Jérusalem pour poser la question à Jean. Est-ce que tu es le Christ? Tu es Élie? Jean va dire non. Alors, tu es le Christ? Il dit non. Tu es le prophète? Jean dit non. Il dit non. Si tu n'es pas l'un des trois, mais qui es-tu? Parce que nous, on a été envoyés et il faut qu'on apporte une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et donc, là, il y a encore une supposition. C'est pour cela que quand les gens ont vu Jésus, ils ont dit, ben, si Jean-Baptiste n'est pas le Élie là dont il est question qu'il allait venir, il se peut que donc Jésus soit le Élie là. Et donc, certains ont dû supposer cela. Mais c'est pas tout, la liste est longue. Et d'autres vont dire que Jérémie. Si moi c'est Jérémie, le prophète Jérémie. Et pourquoi? Parce que son nom signifie celui que l'Éternel a nommé. Ah, si c'est celui-là que l'Éternel a nommé, Jésus est venu au bon moment, sûrement c'est lui. Et la dernière réponse, c'est l'un des prophètes. Et ce qui est étonnant dans la réponse, dans les différentes réponses, c'est que donc tout le monde croyait que Jésus était prophète. Si on le compare à Jérémie, Jérémie était ton prophète. Si on le compare à Jean, c'était ton prophète. Si on le compare à Élie, c'était ton prophète. Si on dit que c'est l'un des prophètes, tout le monde, au moins, selon les différentes réponses qu'on obtient, quelque part, les gens prenaient Jésus pour prophète. Ils n'ont pas proposé autre chose que dans le champ de tout ce qui était prophète qui sont venus avant lui. Cette appellation de l'un des prophètes interpelle beaucoup. On voit bien que la plupart de ces personnages ne connaissaient pas vraiment qui était Jésus, mais une chose était sûre, c'est que c'était un prophète. Des sacrificateurs, comme je l'ai dit, ils étaient envoyés, et des scribes étaient envoyés de Jérusalem pour se demander, essayer de trouver la réponse à ceux qui les ont envoyés. Et donc, Jean-Baptiste a dit que moi, je ne suis pas l'un de tous ce que vous avez cité. Et on lui a dit, est-ce que tu es le prophète? L'article définit le, suppose qu'il y a quelqu'un quand même, un prophète. Le prophète est attendu. Est-ce que tu es le prophète? Il va dire non. Cela veut dire que le peuple ou ceux qui ont envoyé ces scribes et ces sacrificateurs poser la question attendaient un prophète particulier. Ils voulaient savoir si Jean-Baptiste était ce prophète-là. Mais on ne va pas se limiter à ce que les autres disent, parce que c'est comme ça aussi. En tant que chrétien, si on nous demande, on nous pose la question, qu'entendez-vous dire de Jésus de la part de ceux qui ne sont pas croyants, on va avoir aussi beaucoup de réponses. En discutant un jour avec quelqu'un, il m'a dit qu'il entend dire que Jésus est un personnage historique et c'est pas normal que les gens trouvent que Jésus est un personnage historique seulement. Moi je lui dis, mais bah, ils n'ont pas tort. Jésus c'est un personnage historique. Et que si quelqu'un dit que Jésus est un personnage historique, bah, félicite cette personne. C'est un bon départ. Donc, il croit que Jésus a existé. Il est hors de ce qu'il pense que Jésus, c'est une légende, ce n'est qu'une fable. Et donc, cette personne-là qui confesse que Jésus est un personnage historique, dit-lui, bravo, vous avez fait la première marche d'escalier. En confessant que Jésus est un personnage historique, la personne reconnaît la manière dont Jésus était né. Parce qu'on ne peut pas accepter que cette personne existe et nier comment cette personne a existé. Donc, il reconnaît que Jésus a existé, il reconnaît la manière dont Jésus a été conçu. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin un peu plus d'être un peu plus attentif et d'avoir des perspectives un peu plus élargies. Et de cette façon, on pourra conduire mieux les gens à connaître mieux Jésus-Christ. Ou on peut avoir d'autres questions variées. Je ne sais pas ce que vous entendez quand on vous pose, quand vous posez la question à ceux qui ne sont pas croyants de savoir qui est Jésus. Quelle réponse entendez-vous? Je ne sais pas. Les non-croyants, ils pensent quoi de Jésus?
Révolutionnaire.
Un révolutionnaire. Ben, ils n'ont pas tort, hein? Il a révolutionné beaucoup de choses. Hein? Comme quoi, ils ont quand même une idée de ce que Jésus est venu faire. Hein? Il est un personnage historique, un révolutionnaire. Il y a une autre réponse?
Un sauveur.
Un sauveur? Bah, celui-là, il est très, 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 très proche. Hein? Il est limite converti, cette personne qui répond comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Il y en a qui s'en foutent.
Voilà. Il y a juste qui disent que Jésus est une légende, c'est une fable. Ça n'existe pas. Et donc, après avoir posé cette question à ses disciples de ce que la foule pense de Jésus, il ne va pas s'arrêter là. Si eux, qui sont un peu plus loin que vous de moi, ont cette image de moi, qu'en est-il de vous maintenant, qui êtes proche de moi, qui m'accompagnez partout, vous qui me connaissez bien, alors que pensez-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Et la première réponse de la part de Simon-Pierre, il va dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh, réponse bien théologique, bien cadrée. On sait que vraiment, Simon, tu me connais bien. Et Jésus va lui dire, limite, bravo Simon. Parce que cette réponse, ce n'est pas la chair, c'est Dieu qui te l'a révélé. En effet, tu as bien répondu, Simon. Bon, il paraît qu'en France, les compliments, ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher, hein. Pour dire à quelqu'un félicitations, tu as bien fait, tu vas lui dire, ouais, mais il fallait faire ça plutôt. Au lieu de le dire, oui, là, au moins, tu as bien fait, mais là, non. On voit toujours ce qui est mal fait, mais jamais encourager quelqu'un dans l'idée que, voilà, tu n'as pas vraiment fait exactement ce qu'on attendait de toi, mais au moins il y a un aspect où tu as bien travaillé, et bravo, si ce sens-là. Par contre, pour que la prochaine fois que ça soit bien fait, il faut prendre considération de notre facteur. Et là, il y a quelque chose pour équilibrer. Et pareil qu'ici, hein, ça coûte cher, hein, il faut signer un chèque, hein, pour les compliments. À l'école, il y a des enfants qui pensent que les profs, bon, je n'ai rien contre les profs, hein, j'ai été enseigné, donc bravo pour les profs qui se donnent le temps d'éduquer, de transmettre des connaissances. Il paraît que certains jeunes pensent que les profs, ils sont tout en méchant envers eux. On ne les encourage pas, on ne motive pas les enfants, on ne leur montre pas qu'on est assez là, on est suffisamment là pour les aider. Et que on ne les aide pas seulement pour la vocation, mais on est là en tant qu'éducateur. Il y a le cœur aussi qui prend en considération de la situation globale de l'être qu'on est en train d'instruire. Parce que c'est ça qui est important aussi. C'est ça qui est important. Et là, Jésus va dire à Pierre, ben, ça c'est Dieu qui t'a révélé. Et si cette question était retournée à chacun de nous ici, qui dis-tu que Jésus est? Tu sais ce que les gens disent de Jésus, mais toi qui le suis, toi qui es près de lui, qui dis-tu qu'il est? Qui il est? Et finalement, on va avoir beaucoup de réponses. Hein. J'ai fait comme à l'Assemblée nationale. On dit que c'est eux qui décident pour le peuple, n'est-ce pas? On les a choisis pour défendre nos intérêts, n'est-ce pas? Et là, j'ai choisi pour vous. Si ce n'est pas suffisant, faites un amendement et on pourra augmenter. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, certains peuvent répondre que Jésus, c'est mon sauveur. Est-ce que la réponse est fausse ou elle est vraie? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Et un sauveur, est-ce qu'il est un sauveur? Oui. Mais est-ce que c'est une réalité dans la vie de la personne qui dit que Jésus est mon sauveur? Est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Là est la question. Où Jésus est mon Seigneur? Est-ce qu'il dirige ma vie? Est-ce qu'il dirige ta vie? Est-ce que tu le suis? Je me souviens, j'ai fait du foot et donc, vous savez, quand l'entraîneur parle, il y a toujours ces gens qui disent, ces joueurs qui pensent qu'ils connaissent mieux que l'entraîneur. Non, coach, il faut ça, face, il faut ça. Et souvent, notre coach va dire, alors, de nous deux, qui est le coach? Et le jeune va dire, c'est toi. Si je suis le coach, cela veut dire que comme on est deux, c'est toi le joueur. Oui, logiquement, oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es joueur et moi, je suis coach? Bon, je ne sais pas, c'est comme ça. Donc, puisque tu ne sais pas, moi, je sais. Quand je te dis, fais ce que je te dis et tout ira bien. Et donc, on a du mal souvent à suivre, hein, à suivre. On regarde la personne qui est devant et on se dit, bon, ouais, bon, il a dit ça, mais c'est discutable, hein, voilà. Je ne suis pas obligé de faire ce qu'il a dit, bon. En plus, c'est son point de vue, hein. Et puis, on commence à réfléchir, et puis finalement, on dit, bon, je suis la foule, mais je ne fais pas vraiment ce qu'il a dit. Un Seigneur, est-ce qu'on le suit? Le Christ, l'envoyé, est-ce qu'on l'écoute? Parce que quand quelqu'un est envoyé, il a un message à transmettre. Bon, logiquement. Est-ce que lorsqu'il amène le message et il le transmet, est-ce qu'on l'écoute? Parce que s'il est venu transmettre un message, c'est parce que le message contient des actions, des attitudes. Est-ce que l'écoutes-tu? Est-ce que moi je l'écoute? Le prince de paix. Est-ce qu'on a conscience que Jésus est le prince de paix? J'aurais pu mettre plein de références bibliques. Ici, à chaque phrase. Est-ce qu'on est conscient que Jésus est le prince de paix? Parce que la paix que nous cherchons, ou que certains cherchent, il faut avoir la grande maison, la grande bagnole, il faut avoir. Et puis on se dit, oui, je suis dans la paix. C'est pas ça la paix. Si vous avez une grande maison, Dieu merci, une grande voiture, Dieu merci. Mais est-ce que savez-vous qu'il y a certains aussi qui ont tout ça, mais qui n'ont pas la paix? La paix de Dieu. Jésus est venu pour nous donner la paix. Est-ce qu'on est conscient? On est conscient de saisir cette paix par la foi en lui. Ou tu peux répondre que Jésus, c'est la lumière du monde. Belle réponse. Jésus est la lumière du monde. Est-ce que le laisses-tu t'éclairer? Vous avez la nuit les lampes? Mais vous décidez qu'en sortant, en vous baladant dans la maison, vous éteignez les lumières. Vous tombez sur la télé, elle tombe sur vous, et vous essayez de vous relever. Bravo, pas de jambes cassées, ça va, On s'essuie et on se dirige vers les toilettes. Qu'est-ce qui se passe? On cogne sur un meuble encore. Encore ça va, on se lève, on s'essuie. Avant d'arriver dans les toilettes, avant d'ouvrir la porte, peut-être en ouvrant la porte, elle nous tape sur le front. Ça va, c'est le chemin. Non. On a la lumière, c'est l'utiliser pour nous éclairer. On est d'accord que c'est plus facile de travailler dans la lumière que dans l'obscurité. Donc, est-ce que approchons-nous de cette lumière? Est-ce que laissons-nous cette lumière nous éclairer pour voir mieux, pour voir clair? Ça, c'est des questions que l'on peut se poser tout en chacun. Et si quelqu'un n'a pas trouvé de réponse, il peut faire un amendement. Et il y a les pasteurs ici, il y a d'autres anciens de l'église, il y a des frères et sœurs, hein, auprès de qui il peut s'approcher. Écoutez, moi, je voudrais vraiment connaître qui est Jésus. Et j'aimerais bien l'impliquer dans ma vie. Je veux faire partie de ce voyage-là avec lui, pour le connaître. Et donc, ils seront ravis de vous aider. Bon, je les connais. Et je pense que en disant qu'ils seront ravis, ce n'est pas une exagération. Ils le seront vraiment. Pour vous aider à mettre les mots sur ce que vous ressentez et que peut-être que vous n'arrivez pas à l'articuler. Ils vous accompagneront pas à pas, chacun à chacun son rythme, pour arriver à connaître ce Jésus et à pouvoir dire qu'il est mon sauveur, parce que c'est le cas. Il est la lumière du monde, parce que c'est le cas. Il est le prince de paix, parce que c'est le cas. Il est mon Seigneur, parce que c'est le cas. Et quand on arrive à ce stade-là, on ne parle plus pour parler, mais on parle parce que c'est ce qui arrive. Et ça, c'est dans l'être, ce qui est différent du paraître. Que le Seigneur bénisse ta parole et qu'il vous bénisse. Merci.